Seigneur, nous l'avons dit, nous voulons vivre de ta vie et nous savons que ta parole est lumière et vie. Ta parole nous éclaire. Alors Seigneur, on se place devant toi, disposé à t'écouter, à écouter ce que tu as pour nous ce matin, ce que tu as à nous dire, à la fois en Église, comme corps de Christ que nous sommes, et à la fois individuellement, dans nos vies personnelles, Seigneur. Tu as une parole pour chacun, Seigneur. Je te prie pour que vraiment notre cœur soit ouvert, notre entendement soit ouvert, et nous savons que pour ça, nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui vient illuminer ce texte que nous allons lire, que nous puissions le comprendre avec notre tête, mais surtout avec notre cœur, avec nos tripes, pour qu'il nous mette en mouvement. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, on a parlé un petit peu des sujets qui peuvent nous préoccuper et nous intranquilliser notre cœur, peut-être. Et parmi toutes les merveilles dont nous abreuvent les journaux, je voulais parler d'un article sur lequel je suis tombé, en fait, un article du journal La Provence, sur lequel je suis tombé la semaine dernière au sujet d'une affaire bien sordide, de l'affaire dite des viols de Mazan. Alors, en principe, vous avez tous entendu parler de cette affaire. Malgré tout, il va falloir que je rappelle de quoi il s'agit, et ça me coûte un peu parce que vraiment c'est glauque. Mais enfin voici, une femme, Gisèle Pellicot, a été droguée par son mari pendant des années, de façon à la laisser inconsciente et à pouvoir la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes qui se relayaient sans scrupule à son domicile. Et les questions que soulève cette affaire sont innombrables, à tel point que celle du consentement, qui est pourtant, je dirais, la base de la base, tellement fondamentale, semble reléguée ici quasiment au rang d'anecdote. Parce que cette affaire parle de l'état de notre société, je crois. Et il me semble que cet article de La Provence, que voici derrière moi, en est un bel exemple. Cet article titre qu'un psychiatre affirme que les 5 accusés qu'il a expertisés ont été manipulés. Et dans le corps de l'article, nous lisons « Appelé à déposer sur ses rapports concernant les 5 mises en cause de cette semaine, le docteur François Amic a dénoté, en assurant qu'aucun d'entre eux ne se serait rendu au domicile du couple Pellicot s'ils avaient su en amont que la victime était droguée. Pour l'expert, leur venue réside avant tout dans la capacité de persuasion du principal accusé. » Voilà, ces hommes ne seraient pas venus s'ils avaient su qu'elle était droguée. Mais sérieusement, hein, dans quel monde c'est un argument, ça? Parce qu'on ne parle pas d'un homme, là, on parle de 54 hommes identifiés, plus une trentaine non identifiés, et surtout on parle d'hommes qui venaient de la région toute proche, de Mazan même, des villages environnants. Ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas là d'un taré qui passait par là par hasard, il s'agissait de dizaines d'hommes à proximité directe et disposés à s'engager dans l'offre sordide de ce sale type qu'est Dominique Pellicot. Alors à moins de croire qu'il y a là, dans cette région, un vivier de violeurs comme on n'en rencontre pas ailleurs, il faut se rendre à l'évidence, notre société est quand même malade. La remarque même du psychiatre l'indique. Tout ce qu'il y a à dire, apparemment, c'est que s'ils avaient su qu'elle était droguée, ils n'y seraient pas allés. Mais dans quel monde on vit? Dans le monde dans lequel je vis, le simple fait de savoir que ce n'est pas elle qui les invite, c'est déjà suffisant pour ne pas y aller. Et même si ça avait été elle, dans le monde dans lequel je vis, le simple fait qu'elle soit mariée, c'est une raison pour ne pas y aller. Et même si elle n'était pas mariée, le simple fait de n'être pas moi son mari, c'est une raison pour ne pas y aller. Et même si j'étais son mari, elle dort. Elle dort, elle est inconsciente. Ah oui, mais voilà, il ne savait pas qu'elle était droguée. Non mais... Enfin bon. Alors je sais que je tiens là un discours réactionnaire. Mais franchement, comment faire autrement ? On vit dans un monde qui a tellement perdu le sens de la raison qu'un psychiatre donc, peut dire des accusés qu'il a expertisés qu'ils ont tous été, tenez-vous bien, victimes. Victimes de la manipulation de Dominique Pellicot. Mais pas du tout. Et je vais vous dire, moi, de quoi ils ont été victimes, en toute modestie. Je vais me permettre. Voilà. J'ai derrière moi un schéma que je vais devoir vous expliquer, du coup, parce que vous, vous le découvrez. Voilà de quoi nous sommes faits. Nous sommes faits d'un corps. Nous sommes faits d'une âme. Nous avons une âme. C'est « psyché » en grec, qui donne la psychologie, etc. Puis nous avons un esprit. Notre âme, c'est le lieu de notre volonté, de notre intellect, de nos émotions. Ce que je veux, ce que je pense, ce que je ressens. L'âme et le corps ensemble, c'est ce que la Bible appelle la chair. Et c'est ce qui nous est commun avec le monde animal. Et d'ailleurs, anima en latin, ça veut dire l'âme. C'est comme ça qu'on traduit l'âme en latin, ou plutôt qu'on a traduit... Enfin, bref, vous m'avez compris. Ce qui nous différencie du monde animal, ce qui différencie l'être humain, c'est la Genèse qui nous en parle, c'est que Dieu a soufflé en nous son esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Oui, mais dans la Genèse, vous savez... Le problème, c'est que le péché est venu mettre son grain de sel là-dedans et il a créé donc une séparation entre notre esprit et l'esprit de Dieu, notre esprit et l'esprit du Seigneur. Tant et si bien que nous sommes spirituellement morts, c'est ce que dit la Bible de ceux qui, en tout cas, ne sont pas régénérés par l'Esprit Saint. Vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous sommes spirituellement morts. Quand on est dans cet état-là, il peut se passer deux choses. La première, c'est qu'on peut se mettre à vivre, pardonnez-moi l'expression, parce qu'elle est un petit peu violente et évidemment elle serait à nuancer, mais on peut se mettre à vivre comme des animaux, dans le sens où on va... vivre en fonction de notre propre volonté, de notre propre intelligence, de nos propres émotions. Je fais les choses parce que je veux les faire, parce que je pense que c'est bien de les faire, parce que je sens que je dois les faire, mais ça part toujours de moi. Et ça part d'un moi qui est entaché par le péché, donc un moi qui fonctionne de travers. Mon âme ne marche pas bien, ne fonctionne pas bien. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est que comme nous sommes tout de même des êtres avec, je dirais, une dimension spirituelle, eh bien, on va mettre à la place de ce qui devrait être normalement l'Esprit de Dieu, on va y mettre ce que la Bible appelle une idole. Alors, ça peut être un autre Dieu, une autre divinité, ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, ça peut être Krishna, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être l'idole de l'argent, voilà. C'est ma carrière qui me guide, c'est ma volonté de gagner de l'argent qui guide ma volonté, mon intelligence, mes émotions. C'est ça qui me fait bouger. Ça peut être tout un tas de choses. C'est des choses dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Donc je ne vais pas faire une liste exhaustive. Elle serait bien trop longue de toutes nos idolâtries possibles et imaginables. Et ce qui se passe, c'est quand à la place de l'esprit de Dieu, on laisse s'installer finalement un autre esprit, l'esprit du diable ou de l'un de ses sbires, eh bien, simplement, on a de la boue dans le cerveau. L'apôtre Paul décrit cette situation avec les mots suivants en Éphésiens 4, 18. « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Et qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de mettre les chrétiens sur un piédestal. Si on avait des leçons à donner au monde en matière de moralité sexuelle, ça se saurait. Hélas, c'est plutôt l'inverse qui se sait. Ces dernières années, les scandales n'ont pas manqué et je ne parle pas que de ceux qui ont éclaboussé l'Église catholique. Je ne suis pas non plus évidemment en train de dire que tous les non-croyants sont capables des pires horreurs, ça serait absurde, bien sûr, d'affirmer ça. Beaucoup ont une éthique solide. Tout ce que je dis, c'est que si nous manquons de vigilance, on est tous susceptibles de tomber dans une idolâtrie coupable qui peut nous amener à des actes condamnables. Pourquoi ? Parce que quand dans toute ou partie de ma vie, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui règne, alors c'est un autre esprit qui règne sur mon âme. Et en conséquence, ma volonté en est affectée, mon intelligence est obscurcie, mes émotions sont mal ajustées. Et comme toutes ces choses sont précisément ce qui me met en mouvement, alors mes actes sont mauvais et je peux commencer à faire n'importe quoi avec mon corps. Et ce n'est pas une question de croyant ou de non-croyant. On aimerait bien pouvoir se dire ça. Hein. Mais je crois que dans l'Ancien Testament, on voit aussi assez clairement qu'on peut avoir tout à fait une relation avec le Seigneur et malgré tout rendre un culte à Baal. C'est possible. C'est pour ça que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux et que nous sommes avertis, les marchands peuvent s'installer dans le temple. À nous d'avoir l'hygiène de vie qui consiste à les déloger sans ménagement. Mais avant d'en arriver là, le texte qu'on va aborder maintenant nous parle d'un fondement à poser et de ses conséquences. Ce texte, on le trouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, et nous allons lire les versets 6 à 15. Colossiens 2, versets 6 à 15, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Sinon, le texte est derrière moi. Ce texte nous dit ceci. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez en lui. Enracinez-vous et construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi conformément à ce qui vous a été enseigné et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui qui est la tête de tout principat et de toute autorité. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. » Enseveli avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble, en lui, par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Ce texte commence par « ainsi », ce qui implique que ce qui est dit là s'appuie sur ce que Paul a dit précédemment. Et ce que Paul a dit précédemment, je vais vous demander de me faire confiance parce qu'on ne va pas tout lire, c'est que, en fait, il annonce le Christ à tout le monde, déjà, pour commencer. C'est ce qu'il dit. Il est porteur d'un mystère, c'est ce qu'il explique. Ce mystère, c'est que l'Évangile, ce n'est pas pour les Juifs seulement, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, toutes les nations. Et donc, Paul annonce le Christ à tout le monde, et il le fait en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. C'est une belle ambition, hein, qu'on soit porté à notre accomplissement dans le Christ. Et il y a un enjeu qu'il donne au verset 4, qui est « que personne ne vous abuse par de beaux discours ». Que personne ne vous abuse par de beaux discours. Et donc, dit Paul, si j'y suis, c'est là, « Et donc, dit Paul, comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez en lui, enracinez-vous en lui, construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi conformément à ce qui vous a été enseigné et abondez en actions de grâce. C'est bon aussi, je trouve, c'est curieux, je trouve bizarre en fait de finir par abonder en actions de grâce. On a l'impression que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui précède. Et en fait, ça nous fait du bien d'abonder en actions de grâce, parce que c'est l'occasion pour nous de nous rappeler aussi ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et c'est une manière, je crois, effectivement, de s'enraciner, de s'affirmer, de la même manière que la louange nous aide à nous affirmer, à nous enraciner en Christ, abonder en actions de grâce. Ces deux premiers versets, qui ont l'air un peu tout perdus là-haut sur la diapo, ils sont tout là-haut sur la diapo parce que je les vois comme ça, je les vois comme un chapeau, qui vient comme chapeau à tout ce qui vient ensuite, quoi. Et ce qui vient ensuite, c'est d'abord un fondement ferme à poser dans notre vie. Quand on lit ce passage, ce qu'on peut observer, quand on regarde ça d'un petit peu plus près, je vous l'accorde, c'est qu'il y a un contraste qui est établi tout au long de ce passage entre ce que le verset 8 appelle une philosophie trompeuse et vide, et puis de l'autre côté, le Christ. Voilà, ça, on voit bien. Un côté c'est bien, l'autre côté c'est moins bien. Voilà. Philosophie trompeuse et vide d'un côté et le Christ de l'autre. Tout notre passage, c'est une comparaison entre, je dirais, l'économie du monde et l'économie de Dieu. Comment ça se passe dans le royaume de Dieu, comment ça se passe dans le monde. Mais au milieu, il y a un verset qui échappe un peu à cette règle, et qui du coup me semble absolument central, et c'est le verset 12. C'est lui qui nous explique ce qui vient fondamentalement nous faire passer d'un côté à l'autre, d'un royaume à l'autre. Ce verset nous dit ceci, « Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. » Ça, c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce que nous avons vécu, et ça change tout. Ce verset, il nous parle d'une expérience existentielle, une expérience qui n'est rien de moins qu'une expérience de résurrection, qui nous a fait passer d'un royaume à un autre, qui a fait de nous une créature nouvelle, qui a une nature nouvelle même. Par le Christ, nous dit ce verset, nous avons été ensevelis avec Christ. Nous sommes morts avec lui. Ça signifie que tout ce qui est à gauche, là, est mort avec le Christ. Nous qui avions le cerveau plein de boue, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, nous avons été unis dans sa mort. Nous sommes morts avec le Christ. Notre volonté, entachée par le péché, notre intelligence obscurcie, nos émotions mal fichues, tout ça est mort avec Christ quand nous l'avons reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire notre Seigneur et notre Sauveur. Et parce que nous sommes unis à Christ, nous avons été également réveillés d'entre les morts avec lui à une vie nouvelle. Il a pris sur lui notre péché, il nous a revêtus de sa justice. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Ça, c'est une naissance spirituelle, une naissance qui vient d'en haut, qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes, c'est un cadeau qui nous est fait, et qui fait de nous une nouvelle créature dont la volonté, l'intelligence et les émotions se voient renouvelées par l'Esprit de Dieu. Parce que notre esprit, notre propre esprit, a repris vie. Voilà, c'est écrit là-haut, il nous a rendus vivants avec le Christ. Nous qui étions morts, il nous a rendus vivants avec le Christ. Nous sommes à nouveau en lien avec l'Esprit de Dieu. Nous pouvons maintenant chasser les idoles de notre vie qui viennent obscurcir notre intelligence. Et c'est cette expérience-là que nous manifestons par le baptême. Et c'est ça que nous sommes appelés à vivre et à nous approprier par la foi tout au long de notre vie chrétienne. Parce que si ce verset pose un fondement, qui n'est rien de moins que celui d'une nouvelle identité, bien sûr, ça a des conséquences concrètes pour notre vie. Et il est toujours bon de rappeler, je crois, que Paul s'adresse ici à des chrétiens. C'est bien à des chrétiens qu'il dit au verset 8 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ». Donc c'est possible que nous soyons la proie de quelques-uns, la proie d'une philosophie vide et trompeuse, par exemple. Et c'est pour ça que nous faisons bien de ne pas regarder les non-croyants avec trop de condescendance. Qui s'étonne de la chute d'un abbé Pierre n'a sans doute pas encore saisi la profondeur et la gravité du péché dans le cœur humain. Qui s'exonère à bon compte en disant que l'abbé Pierre finalement n'était sans doute pas si chrétien, s'illusionne quant à l'état de son propre cœur, je crois. Et c'est d'ailleurs là peut-être que réside le plus grand danger pour nous-mêmes, et c'est encore Paul qui nous le dit en 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et pour autant, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Il y a une nouvelle réalité pour nous. À la tradition des humains, verset 8, qui puise donc sa source dans des cœurs tortueux, Paul oppose la plénitude de Dieu qui se trouve en Christ, ce Christ qui vit en nous. La plénitude de Dieu est en lui. Aux éléments du monde, verset 8, c'est-à-dire tout ce qui est dans la main de Satan, tout ce qui nous maintient captifs, tout ce qui est sous son autorité, pourrait-on dire, peut-être, Paul oppose, lui, le dépouillement des principats et des autorités parce qu'elles sont sous l'autorité de Christ, versets 10 et 15. Et donc, nous ne sommes plus sous la coupe de ces entités mauvaises. Éphésiens 1 et Éphésiens 2 sont éloquents pour ça, puisque, alors je ne sais plus, je crois que c'est Éphésiens 1 qui dit que Christ a été placé à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, etc. Et Éphésiens 2 dit que nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus sous la coupe de ces entités mauvaises. À la circoncision du corps, c'est-à-dire à cet acte extérieur, issu de la volonté humaine, en tout cas fait par une main humaine, Paul oppose, lui, la circoncision du Christ au verset 11, c'est-à-dire une circoncision du cœur, un acte intérieur opéré par l'Esprit-Saint lui-même qui nous donne un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Est-ce que nous avons un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre? Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit que c'est arrivé? En Christ, notre purification n'est pas extérieure à force d'œuvres bonnes, elle est intérieure et c'est une grâce qui trouve sa source dans la mort de Jésus à la croix, dans son sang versé pour nous. Et donc, à la mort comme conséquence de nos fautes, verset 13, Paul oppose, là encore, une vie abondante qui se trouve en Christ comme conséquence de la pure grâce de Dieu, versets 13 et 14. Alors, vous voyez ce contraste. En fait, il met en vis-à-vis ce qui était constitutif du vieil homme, ce que nous étions, mais que nous ne sommes plus en Christ. Cet être que nous avons été, mais qui est mort, uni au Christ par le baptême, et s'est mis en vis-à-vis avec ce qui est constitutif de la nouvelle créature que nous sommes aujourd'hui, qui est née de l'action de l'Esprit-Saint au moment de notre conversion. Et il y a une opposition claire entre les deux. Et ça sera le mot de la fin, la question fondamentale, en fait, c'est qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Est-ce que nous sommes cette créature nouvelle qui est décrite à droite, là, ou est-ce que nous sommes ce vieil homme décrit à gauche? Et ne croyez pas que j'introduis là un appel à la conversion. En fait, je fais comme Paul, je m'adresse aux chrétiens. Pour les chrétiens, en principe, la question est rhétorique. Si nous sommes en Christ, ce qui est écrit à droite décrit la réalité de ce que nous sommes pleinement aujourd'hui. Ce que nous sommes pleinement aujourd'hui. Mais est-ce que c'est bien ce que nous croyons? Est-ce que c'est ce que nous croyons? C'est fondamental parce que ce que nous faisons découle de ce que nous croyons. Si je crois qu'il suffit d'ignorer qu'une femme a été droguée pour légitimement m'octroyer tous les droits sur elle, quand bien même elle est inconsciente, si c'est vraiment là ce que je crois, si c'est là la base de ma croyance, alors qu'est-ce qui me retiendra? Mais même en étant chrétien et en ayant acquis un certain nombre de valeurs, et là on est vraiment au ras des pâquerettes, hein, au niveau des valeurs, Si, m'étant approché d'un peu trop près d'une philosophie trompeuse et vide, je finis par croire, par exemple, ou alors peut-être que je ne me suis pas assez éloigné de cette philosophie trompeuse et vide, je finis par croire que ma vie n'a aucun sens. Alors ma vie n'aura aucun sens, quand bien même elle en a un qui m'est donné par le Christ. Si je crois que Jésus, certes, il est mort à la croix, mais enfin moi je suis quand même toujours sous la coupe de Satan, je le vois bien dans ma propre vie, ben je vivrai sous la coupe de Satan, quand bien même Jésus m'a pleinement libéré à la croix. Si je crois que Dieu ne m'accueille qu'à la mesure de mes bonnes actions, parce que j'agis bien, parce que je fais bien, alors je passerai ma vie à chercher son approbation et j'irai évidemment de déception en déception parce que je suis face à un Dieu saint. Quand bien même, lui me regarde comme un saint. La Bible dit que nous sommes saints. Paul, quand il s'adresse aux chrétiens des différentes églises, il s'adresse au sein de l'église d'Éphèse, au sein de l'église de Corinthe, etc. C'est le regard que Dieu porte sur nous. Nous sommes saints. Est-ce que c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes ? Nous sommes parfaitement justifiés, parfaitement accueillis dans son royaume. Nous n'avons rien à faire pour le satisfaire. Si je crois au fond de moi-même que ce que j'ai fait est impardonnable, alors je vais vivre tous les jours de ma vie comme un condamné, quand bien même il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans toutes ses lettres, Paul pose d'abord le fondement de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il dit de nous. C'est particulièrement clair dans l'Épître aux Éphésiens, si vous la lisez, les trois premiers chapitres, il ne fait que ça. Il nous dit qui nous sommes, ce que Dieu a fait pour nous, qui nous sommes en Christ. Et ensuite seulement, il parle de la façon dont ça vient changer notre comportement. Parce que c'est bien dans ce sens-là que ça se passe. La question n'est pas d'abord de savoir ce que nous avons à faire, elle est de savoir ce que nous avons à croire. Si on met le faire avant le croire, alors on ne va pas vivre en chrétien. On va jouer au chrétien. On va apprendre comment il faut se comporter pour être un bon chrétien. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On va essayer de se conformer à ce qu'un chrétien est supposé être. Et on sait faire, en fait, parce que c'est facile. Il suffit de regarder un peu autour de soi et on voit bien, on entend bien, on nous rabâche tous les dimanches ce qu'il faut faire dans les prédications. Et puis on voit autour de soi comment se comporte un chrétien. On peut même choper le vocabulaire du chrétien. Mais quand on fait ça, en fait, on soigne l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, on a toujours de la boue dans le cerveau et ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de considérer ce que Dieu dit de la nouvelle créature que nous sommes et de nous ancrer dans cette nouvelle identité et de vivre en conséquence et de laisser Dieu renouveler nos pensées et tout notre être intérieur. Et alors seulement, nous commençons à bien agir, non pas en dépit de notre péché, mais en vertu de notre sainteté. Et ça change tout. Alors, en guise d'application pour ce message, c'est assez simple, sur le papier en tout cas, c'est assez simple. Regardez ce que Dieu dit de vous. Regardez ce que Dieu dit de vous dans votre Bible. Méditez ce qu'il dit de vous. Décidez de croire que sa parole est plus fiable que toute autre parole, y compris la vôtre. Et vivez en conséquence, non pas de ce que la Bible vous dit de faire, mais en conséquence de cette identité nouvelle en Christ. Et là, oui, on commence à voir du changement. Je vais prier. Seigneur, nous savons que ton œuvre est avant tout intérieure et pourtant bien souvent nous nous échinons à bien soigner l'extérieur, à prendre soin de l'extérieur de la coupe et du plat. Et on le fait en serrant les poings, en se crispant, parce qu'au fond de nous-mêmes, nous continuons de croire des mensonges sur qui nous sommes. Et nous avons l'impression que la sainteté à laquelle tu nous appelles, elle est contre nature. En fait, c'est l'inverse. Ce qui est contre nature, c'est le péché. Parce que nous sommes une créature nouvelle en toi. Parce que tu as fait de nous une nouvelle créature. Parce que tu dis sur nous des vérités et qu'on a peine à les croire. Seigneur, nous sommes sauvés par grâce, c'est un cadeau qui vient de toi, et nous sommes sauvés au moyen de la foi. Seigneur, nous voulons vivre dans la foi de qui tu es, dans la foi en ta parole, en ce que tu dis de nous, et tu dis des choses merveilleuses de ce que nous sommes en toi. Seigneur, bien souvent, nous devons confesser devant toi que nous manquons de foi, que nous ne croyons pas ce que tu dis de nous, et qu'en conséquence, nous vivons en fonction de ce que nous croyons. Nous ne nous croyons pas à la hauteur, donc nous ne sommes pas à la hauteur. Nous nous croyons faibles devant l'ennemi, et du coup, nous sommes dans la défaite devant l'ennemi. Nous nous croyons sous son emprise, et du coup, nous vivons sous son emprise. Alors que ta parole dit exactement le contraire. Ta parole dit que nous sommes forts, que nous sommes plus que vainqueurs. Ta parole dit que nous sommes saints. Ta parole dit que nous sommes tes enfants, que rien ne peut nous enlever de ta main. Seigneur, nous voulons ancrer ces paroles en nous, au plus profond, de façon à vivre en fonction d'elles et non pas en fonction de ce que l'ennemi nous susurre à l'oreille. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Sauveur. Seigneur, qu'il en soit ainsi maintenant dans notre vie.